travaillait au centre de recherche secret en matière de guerre bactériologique. Et mort de la peste. Cela nous ramène en plein Moyen Âge.
Et qui sont exactement les mêmes que celles dont nous fûmes comblés sans en être accablés depuis le 18 juin.
Si la guerre du Péloponnèse nous apparaît encore aujourd'hui avec un tel relief, c'est pour une bonne part parce qu'elle a eu pour historien Thucydide. Il a vécu toute cette guerre. Il a commencé à en préparer l'histoire dès le début des hostilités et nous en a laissé le récit inachevé, un peu plus de 20 années de guerre sur 27.
Le coup d'œil sur l'histoire, le recul vers une période passée, ou, comme aurait dit Racine, vers un pays éloigné, vous donne des perspectives sur votre époque et vous permet d'y penser davantage, de voir davantage. Les problèmes qui sont les mêmes et au contraire les problèmes qui diffèrent ou les solutions.
Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet. Bonjour. Depuis les États-Unis, il nous revient que l'œuvre de Thucydide y connaît depuis quelque temps une faveur surprenante dans une bonne partie de l'intelligentsia et également parmi les géopoliticiens qui théorise les conflits actuels. L'historien grec du 5e siècle avant Jésus-Christ est l'auteur d'un grand livre, La guerre du Péloponnèse, où il retrace l'affrontement de 27 ans entre Athènes et Sparte, entre 431 et 404. Eh bien, cette œuvre apparaît à beaucoup, outre-Atlantique, comme riche d'enseignements sur le monde contemporain. On a accoutumé de citer à propos de l'affrontement qui se durcit actuellement entre Washington et Pékin, cette maxime célèbre de Thucydide, c'est la montée d'Athènes et la peur que cela inspira à Sparte qui rendit la guerre inévitable. Voilà bien qui donne envie d'aller voir de plus près si cette concordance des temps a vraiment quelque validité et si elle résiste à l'analyse. Car évidemment, l'enjeu pour notre présent et pour notre avenir n'en est pas mince. Une guerre probable ou bien non ? Il faut ajouter que la réflexion s'élargit jusqu'à une autre interrogation essentielle. S'il est légitime de parler d'un impérialisme athénien extrêmement brutal, celui que pratiqua la mère des démocraties, alors on s'interroge sur les possibles échos jusqu'à notre temps, jusqu'à d'autres formes de colonisation directe ou à peine voilée, depuis Jules Ferry en Afrique et en Asie, jusqu'à George Bush Jr. du côté notamment de l'Irak. Patrice Brun, mon invité, mon interlocuteur ce matin, est professeur d'histoire ancienne à l'université de Bordeaux, qu'il a naguère présidé, et ses travaux l'ont conduit tout droit vers le sujet qui va nous occuper. Faut-il invalider ces rapprochements après 2500 ans, en craignant un anachronisme malvenu, ou bien sont-ils au contraire riches de mises en garde pour nos générations? Vous admettrez, j'imagine, qu'il vaut la peine de s'en enquérir. Et pour commencer, nous allons écouter Jacqueline de Romilly, professeure au Collège de France, grande helléniste, grande prêtresse de Thucydide, qui s'exprimait de la sorte en 1975.
Lire Thucydide pendant une guerre comme la dernière guerre éveille des masses d'échos. C'était une guerre à la mesure de la Grèce que cette guerre du Péloponnèse que raconte Thucydide. Mais pour la Grèce ancienne, c'était une guerre totale et terrible qui a été une expérience, un bouleversement moral extrême. Les problèmes qui s'y posaient étaient d'ailleurs des problèmes de démocratie contre régime non démocratique, de puissance de mer contre puissance de terre, de conquérants, de domination contre liberté des peuples. Par mille façons différentes, le texte de Thucydide vient jouer directement sur la sensibilité quand on le lit au cours de la guerre. D'ailleurs, cette actualité se renouvelle en toutes circonstances. Vous n'imaginez pas le nombre d'études qui, à l'heure actuelle, sont écrites sur Thucydide et le Vietnam ou des sujets de ce genre. On trouve dans un auteur de ce genre des échos de toutes sortes de situations modernes. Encore aujourd'hui même, j'expliquais un texte de Thucydide qui est le dialogue des Athéniens et des Méliens, où on voit un conquérant qui arrive pour soumettre une petite île et qui lui dit qu'elle n'a qu'à se soumettre et qu'il faut écarter les discussions de droit, puisque on ne parle de droit que par prétexte que seule la force compte. Mais le dialogue de la force et du droit, il est encore souvent d'actualité.
Patrice Brun, bonjour.
Bonjour.
Il me semble que ce texte que je vous donne à entendre peut être une sorte d'épigraphe pour notre émission entière. Et comme elle a un peu le timbre de Marguerite Yourcenar qui clôt notre générique, je me suis demandé un bref instant si nous ne ferions pas une substitution. Mais nous sommes attachés, en fait, à nos habitudes. Alors cet homme, ce Thucydide, Patrice Brun, on arrive à le saisir, à comprendre qui il était? Est-ce qu'on est informé sur les ressorts de son intelligence, son patriotisme, les influences qu'il a pu subir?
Alors, il faut le resituer dans le contexte du 5e siècle qui est pour nous, d'un point de vue intellectuel, celui des sophistes. On voit très bien son influence, l'influence des sophistes, dans les discours qu'il prête. Il le dit d'ailleurs, je ne prétends pas dire ce que les orateurs ont réellement dit, mais je dis ce que ils ont voulu dire et je donne l'essentiel de leur argumentation. Et c'est tout à fait intéressant parce que précisément, on a là, je dirais, toute l'argumentation de la sophistique. Et de la vraie sophistique, pas de la seconde sophistique, de la première sophistique, celle de Gorgias, de Leontinoï par exemple, où effectivement, la rhétorique devient vraiment c'est le logos, c'est-à-dire une capacité à bien parler, à bien s'exprimer et à exprimer le fond d'une pensée argumentée.
C'est un contemporain d'Hippocrate et on a parfois eu une influence de la science médicale sur la pensée de cet homme qu'on ne connaît guère que par son œuvre et qu'on n'aperçoit pas vraiment dans sa biographie précise.
Oh, sa biographie précise, on sait qu'il est né vers 460, 465, 460 avant notre ère et qu'il est mort vers 395, qu'il est issu d'une famille qui est peut-être affiliée à celle de Simon et à celle de Miltiade, donc une grande famille quand même aristocratique, qu'il avait sans doute des possessions et des mines en Thrace, donc un personnage très important, mais finalement on connaît assez peu de choses de lui. Donc c'est assez difficile, le personnage nous est assez mal connu, parce que il parle peu de lui, et les autres, les successeurs en quelque sorte, n'ont dit que ce qu'ils savaient par Thucydide, c'est-à-dire peu.
On imagine qu'il a été ami d'Hippocrate?
Ami, ça on peut pas dire, ça je ne sais pas, le personnage d'Hippocrate est quand même aussi un petit peu mystérieux quand même, mais c'est vrai que la manière dont il décrit ce que traditionnellement on appelle la peste d'Athènes, qui n'est pas une peste, enfin c'est pas la peste noire, la peste bubonique, mais enfin on traduit ça par peste. La description qu'il donne montre des connaissances, du moins une culture médicale. Là c'est indiscutable, il y a ça aussi chez Thucydide.
Il reste que cet homme enraciné dans son temps, à partir des influences qu'il a subies et que vous analysez, il nous parle aujourd'hui. C'est ce que nous allons essayer de démontrer ce matin. Il nous parle et, au fond, Thucydide peut apparaître comme contemporain. Nous allons voir.
Il est tout à fait certain que le texte de Thucydide ouvre des pistes de réflexion tout à fait intéressantes. Mais d'ailleurs, il y a tellement d'historiens, et d'hommes politiques, de philosophes, qui ont utilisé le texte de Thucydide pour, comprendre l'histoire des idées, comprendre le présent, qu'on ne peut pas nier qu'il y a une réalité, actualité de Thucydide. Alors, il n'est pas question, évidemment, d'utiliser, Thucydide comme une sorte de texte sacré, sur lequel il n'y aurait plus rien à dire après. Non. Mais c'est vrai que, par de multiples paroles, dont nous parlerons certainement tout à l'heure, on voit à quel point Thucydide évoque en nous un certain nombre de pistes qui nous permettent, sinon de comprendre le monde actuel, du moins, d'avoir des pistes de réflexion et de se dire que finalement, un passé peut, par moments, sous certains aspects, revenir.
Eh bien, cela nous va très bien, et voilà notre programme pour une heure. J'observe que paraît ces jours-ci, aux éditions Odile Jacob, un livre du politologue américain Graham Allison, qui vient illustrer ce que je disais sur l'intérêt qu'on a outre-Atlantique pour Thucydide et pour son usage éventuel au service d'une réflexion contemporaine, pour les spécialistes de la guerre, comme pour les ceux qui réfléchissent à la démocratie. C'est lui qui a tiré de Thucydide une expression qui s'appelle le piège de Thucydide à propos des relations actuelles entre la Chine et les États-Unis, et c'est à vrai dire un peu inquiétant.
Bien, alors je ne sais pas si c'est inquiétant, mais il est vrai que il y a un certain nombre de similitudes qu'on peut trouver, c'est-à-dire cette sorte de, comment dire, je dirais presque de marche à la guerre. On utilisait souvent ça dans les ouvrages de lycée. On parlait de marche à la guerre à partir de 1909, par exemple, jusqu'à vers 1914. Et c'est vrai qu'on se retrouve un petit peu, dans ce qui se passe entre la Chine et les États-Unis, un certain nombre de choses qui font que l'on peut retrouver comme, non pas comme similitude, mais comme forme d'analogie entre ce qui se passe entre Athènes et Sparte. Personne ne veut la guerre, dit-on. Personne ne veut la guerre, mais on a l'impression que chacune y va. Et ne fait aucun pas qui éviterait d'y aller. Et là, effectivement, si on doit systématiquement retrouver dans Thucydide un modèle pour aujourd'hui, il y a quelque chose d'inquiétant.
Oui, c'est l'idée que de tout temps, le sentiment obsidional est un facteur belligène. L'impression que on est soi-même pacifique, mais qu'on est menacé par les autres et que d'une certaine manière, il conviendrait de prévenir la guerre pour avoir l'avantage de celui qui frappe le premier. C'est un peu ça.
Pour les Spartiates, ça a été tout à fait le cas. C'est-à-dire que les Spartiates avaient été menacés par leurs alliés de rejoindre Athènes s'ils n'intervenaient pas.
Alors racontez-nous comment on en est arrivé là, si vous voulez bien. Il y a eu les guerres médiques, d'abord dans un premier temps. Entre 490 et 478, c'est ça à peu près, et qui ont été suivis par une longue période de paix. Vous voulez bien nous retracer brièvement ces événements ?
Une longue période de paix, peut-être pas, parce que d'abord il y a eu nombre de guerres entre les cités grecques.
Qu'est-ce que c'était que les guerres médiques ? Pardon.
C'est une suite de deux guerres traditionnellement où l'on voit les Perses tenter de s'emparer, ou en tout cas d'avoir une très forte influence sur le monde grec balkanique. Et là, évidemment, on a une alliance d'une trentaine de cités grecques pour repousser les Perses. Et ça, ce sont, évidemment, il y a des batailles célèbres, Marathon en 490, Salamine en 480, ensuite 479, c'est la bataille de Platée, et puis 478, les derniers Perses sont chassés du monde grec. Et après, c'est vrai qu'il y a une sorte de période de paix, mais pas vraiment une paix. Pourquoi ? Parce que les guerres entre Perses et Athéniens sont remplacées par ce qu'on appellera des opérations de maintien de l'ordre, si vous voulez, puisque, à partir de 478, Athènes met sa patte, et une patte, je dirais, de lion, sur l'ensemble du monde égéen. Et elle crée une ligue, la Ligue de Délos, qui auparavant, au début en tout cas, est faite pour se prémunir d'un retour de l'invasion perse, mais qui en réalité devient l'instrument de domination athénienne.
Est-ce que c'est l'OTAN ?
Ah, est-ce que c'est l'OTAN ? Je crois qu'il y a effectivement... Alors, les historiens marxistes dans les années 60 avaient évoqué ce parallèle. En réalité, il y a là probablement une forme de, je dirais, d'exagération, parce que les modes de domination des Athéniens sur leurs alliés était tout autre que celle des Américains sur l'Europe occidentale.
Nous y reviendrons. C'est la grande question des rapports entre démocratie et impérialisme. Mais pour l'heure, rappelez-nous alors ce qu'a été cette guerre du Péloponnèse que Thucydide nous raconte.
Alors, à la fin des années 430, en réalité, Athènes a pris tellement d'influence sur le monde égéen qu'elle finit par menacer des cités traditionnellement alliées de Sparte. Mégare, sur l'isthme dit de Corinthe, et Corinthe elle-même. Et là, ce sont des positions clés pour les Spartiates. Ils ne peuvent pas admettre que Corinthe et Mégare passent du côté athénien. Et ils décident donc, d'une certaine manière, de déclarer la guerre. On ne la déclare jamais comme ça, parce qu'on dit toujours que c'est l'autre qui la déclare. Hein, puisque les Spartiates disent que les Athéniens n'ont pas respecté leur serment. Évidemment, ce sont des prétextes. Mais ils ont peur de cette domination athénienne. Quant aux Athéniens, Alors, si eux, ils ne veulent pas la guerre, pourquoi ? Parce qu'en général, un puissant veut rarement la guerre. Par contre, ils y vont sans aucun remords, sans aucune crainte. Et c'est ça qui fait, il y a 27 années de guerre, avec plusieurs rebondissements.
Hein, 431 à 404 à peu près.
À 404, exactement, plusieurs rebondissements qui nous sont narrés en priorité par Thucydide, mais Thucydide étant mort avant la fin de son œuvre, c'est l'année 411 qui marque la fin de l'œuvre de Thucydide.
C'est Xénophon qui a repris le
flambeau. Et Xénophon, dans les Héléniques, a repris la chronologie à partir de là où Thucydide l'avait arrêté. On a là, effectivement, je dirais... Alors, Thucydide dit à un moment que c'est le plus grand heurte qui ait jamais affecté le monde. Évidemment, le monde au sens qu'un grec et qu'un athénien pouvaient imaginer, hein, parce que effectivement, le monde athénien est petit, c'est essentiellement la mer Égée. Alors que lorsque Hérodote, par exemple, parle d'un heurte des forces, on va dire, du monde, lui, il a une plus grande focale d'un point de vue géographique, puisque la Perse, il y parle, vraiment, c'est beaucoup plus important.
Alors, quelles sont les grandes étapes de cette guerre du Péloponnèse ?
Alors, traditionnellement, il y a une première partie, les 10 premières années, qu'on appelle la guerre dite archidamique, c'est le nom du roi de Sparte, Archidamos, et qui se termine, je dirais, par une paix de statu quo, où un certain nombre de victoires athéniennes, comme par exemple la prise de soldats spartiates en 425, interdit en quelque sorte aux spartiates d'attaquer directement Athènes, mais un certain nombre d'autres batailles finissent par rendre les forces égales et les deux ennemis finissent par accepter une paix que l'on appelle la paix de Nicias.
Comme deux boxeurs fatigués s'appuient l'un sur l'autre.
Un peu ça. Alors pendant quelques années, il ne se passe presque rien, mais il y a quand même encore des batailles, non pas directes entre Athéniens et Spartiates, mais un certain nombre de heurts et de batailles indirectes. Et puis surtout, le grand événement, c'est 415, lorsque les Athéniens, probablement, là maintenant on peut le dire, par démesure, imaginent qu'ils vont pouvoir s'emparer de la Sicile.
Hubris, comme on disait chez eux.
Voilà, c'est l'hubris. Et cette campagne de Sicile, qui en 2 ans se termine de manière absolument abominable pour les Athéniens, puisque quasiment tous les soldats y passent. Il n'y en a pas un seul, ou quelques-uns simplement qui peuvent revenir.
Je vous ferai entendre tout à l'heure le récit par Thucydide qui est assez effrayant.
Et c'est en quelque sorte la fin de la puissance athénienne, puisque les guerres reprennent officiellement de suite après, à partir de 413 et surtout 411, et tout cela se termine en 404 avec la capitulation d'Athènes.
Thucydide joue un rôle lui-même dans cette guerre, un rôle d'ailleurs assez malheureux.
Oui, parce que Thucydide est issu de famille aristocratique, et par conséquent, il peut, comme beaucoup de membres de sa famille, il devient stratège, c'est-à-dire commandant des forces militaires. Alors, il n'est pas le seul, il y a 10 stratèges à Athènes. Il a au moins une campagne, on en connaît une, et puis c'est celle dont il parle.
Il arrive trop tard.
Il est considéré comme responsable du retard de l'arrivée des troupes athéniennes au secours d'une cité, de la cité d'Amphipolis, et il est donc exilé, puisque la peine pour un stratège qui n'avait pas obéi aux ordres, ou mal obéi aux ordres, c'était l'exil. Parfois, c'était même la condamnation à mort.
C'est peut-être ça qui nous vaut la chance qu'il ait fait ce qu'on peut appeler une histoire du temps présent, puisque c'est ce que nous appellerons aujourd'hui sorte.
Parce qu'on dit finalement que c'est un historien, mais c'est un historien qui travaille pendant que les événements se font. Et il a, si je puis dire, nous avons bénéficié de son exil, puisqu'il a désormais passé son temps à recueillir les témoignages, probablement d'ailleurs à rencontrer des protagonistes de cette guerre, et qui a donné, je dirais, cette œuvre puissante.
Eh bien, c'est l'occasion de comprendre ce qu'a été sa méthode, ce qui n'est pas sans conséquence d'ailleurs sur notre réflexion d'aujourd'hui, relation entre autrefois et à présent. Écoutez cet extrait de l'histoire de la guerre du Péloponnèse, donc de Thucydide, lu par Gérard-Henri Durand dans l'émission Panorama de Michel Bidlowski, le regretté Michel Bidlowski, sur France Culture le 14 novembre 1990.
Dans les faits antérieurs, l'événement le plus important fut la guerre médique. Celle-ci, cependant, fut promptement tranchée par 2 combats sur mer et 2 sur terre. cette guerre-ci, au contraire, se prolongea considérablement et comporta pour la Grèce des bouleversements comme on n'en vit jamais dans un égal laps de temps. Jamais il n'y eut tant de villes prises et dépeuplées, soit par des barbares, soit dans des combats entre elles. Il en est même qui, en tombant, changèrent d'habitants. Jamais non plus tant d'exils et de massacres, soit liés à la guerre, soit dus aux luttes intérieures. De plus, ce qui auparavant se racontait dans des récits, mais se vérifiait rarement dans les faits, perdit tout caractère d'invraisemblance. Ainsi, pour les tremblements de terre, qui tout à la fois couvrirent des régions plus étendues que jamais et furent plus forts, des éclipses de soleil, qui se montrèrent plus fréquentes que dans tous les souvenirs des époques antérieures, de grandes sécheresses dans certains pays, par suite aussi des disettes. Enfin, cette cause majeure de dommages et en partie au moins d'anéantissement, l'épidémie de peste, tout cela sévit en même temps que cette guerre. Elle commença entre les Athéniens et les Péloponnésiens avec la rupture du traité de 30 ans conclu après la prise de l'Eubée. Pour expliquer cette rupture, j'ai commencé par indiquer en premier lieu les motifs et les sources des différends, afin d'éviter qu'on ne se demande un jour d'où sortit en Grèce une guerre pareille. En fait, la cause la plus vraie est aussi la moins avouée. C'est à mon sens que les Athéniens, en s'accroissant, donnèrent de l'appréhension aux Lacédémoniens, les contraignant ainsi à la guerre.
Ce n'est pas forcer le trait, Patrice Brun, que d'évoquer l'éventuelle appréhension que l'Amérique d'aujourd'hui peut avoir devant la Chine en plein essor. Mais ce qui m'intéresse beaucoup, et ce que j'aimerais que vous commentiez dans ce texte, c'est la réflexion méthodologique. L'idée chez Thucydide, et cela nous apparaît très moderne, que chaque conjoncture est faite de la rencontre de causes immédiates, c'est un peu l'assassinat de Ferdinand à Sarajevo en 1914, et de raisons, de motifs profonds, de causes profondes, de forces profondes qui viennent à un moment donné contribuer à ce que cet incident aboutisse au pire.
Alors, la méthode historique de Thucydide, je dirais, nous est familière. Indiscutablement. Alors c'est vrai que il y a une grande historienne décédée il y a une dizaine d'années maintenant, Nicole Leroux, avait, dans un article célèbre, avait dit « Thucydide n'est pas un collègue ». Et c'est vrai qu'il n'a pas la même manière, je dirais, de penser l'histoire. Il ne pense pas l'histoire dans les mêmes termes que nous.
Mais en même temps, Nicole Leroux défendait l'idée d'anachronisme.
Mais voilà, mais c'est ça. Et c'est ce qu'elle disait. Elle disait que, en fait, l'anachronisme, non. Mais ou alors, bien penser, parce qu'en fait, chaque fois que nous faisons de l'histoire... On sait très bien que nous ne faisons que de l'histoire contemporaine. Même moi qui fais de l'histoire ancienne, en réalité, nous sommes tous, je dirais, captés, notre esprit est capté par les phénomènes actuels.
C'est ce que disait Benedetto Croce, toute histoire est contemporaine.
Toute histoire est contemporaine. Par contre, il faut l'assumer. Et c'est ça qui est important. On fait de l'anachronisme lorsqu'on n'assume pas cette chose-là. Alors, la méthode historique, elle évidemment, alors, au-delà de la petite pique initiale sur Hérodote, où il dit que le plus grand événement, c'est la guerre du Péloponnèse, alors que Hérodote, une génération plus tôt, disait la même chose des guerres médiques.
Bon, chacun sa guerre.
Chacun sa guerre. Alors, il y a effectivement une forme de rationalisme dans sa méthode historique qui, comme il dit, on évoque les réalités, les réalia, comme on dit, et on évite le merveilleux. Avec une petite nuance quand même, puisque dans cet extrait, on voit qu'il parle de tremblements de terre, il parle de sécheresse, qui n'ont que peu à voir avec des faits humain, en quelque sorte. Mais, effectivement, on a là, je dirais, surtout la fin de cet extrait, on a là, je dirais, la massue de Thucydide. C'est la différenciation profonde qu'il y a entre les causes immédiates et les causes vraies. Et ça, je dirais, c'est une chose que, maintenant, tous les historiens acceptent. Et c'est vrai que c'est une formidable leçon que nous a donnée Thucydide.
Et c'est là qu'on revient à notre Graham Allison, dont le livre paraît ces jours-ci, Le piège de Thucydide, le piège thucydidien. C'est un historien qui s'occupe beaucoup de problèmes contemporains, de géopolitique, puisque il a rendu visite au comité de sécurité nationale de Donald Trump à la Maison Blanche récemment, puisqu'il a apparemment convaincu de la validité du parallèle James Mattis, qui était ministre de la Défense. Il expose 16 cas qui lui paraissent renvoyés à l'opposition entre Athènes et Sparte et annoncer celle actuelle entre la Chine et les États-Unis.
Alors, effectivement, il y a des correspondances qui peuvent être troublantes. La question qu'on peut se poser, c'est de quel côté va-t-on mettre Donald Trump ? Est-ce qu'on va le mettre du côté des Athéniens ou du côté des Spartiates ?
Vous avez liberté de choisir.
Alors, non, mais je ne vais pas choisir, vous allez voir, parce qu'il y a un petit peu des deux. Il y a une forme d'arrogance, qui est celle de, des Athéniens, qui sont persuadés de leur puissance. Mais il y a aussi du Spartiate chez Trump, où on voit la puissance de la Chine se développer d'une certaine manière, je dirais peut-être le pousser, je dirais, nous espérons évidemment pas, mais pousser effectivement à la guerre. Et on voit un petit peu que Trump, d'une certaine manière, agit un petit peu comme les Spartiates, avec cette crainte de voir la puissance d'un ennemi croître au fur et à mesure que, d'une certaine manière, la sienne, je dirais pas qu'elle baisse, mais en tout cas elle est contestée. Et là, effectivement, il y a des, on peut retrouver dans l'œuvre de Thucydide un certain nombre de réflexions qui sont, comme le dit Allison, assez troublantes, oui, j'insiste.
Allison relève 16 cas qui lui paraissent faire écho avec l'opposition entre Athènes et Sparte jusqu'aujourd'hui. Il n'en relève que 4, c'est impressionnant, qui n'auraient pas abouti à la guerre. Par exemple, le moment où les États-Unis l'ont emporté, leur suprématie l'a emporté sur celle du Royaume-Uni.
Oui, mais ce qu'il y a quand même de réjouissant, c'est qu'il évoque aussi un exemple qui est quand même extrêmement récent, c'est celui de la réunification allemande. Où finalement, là, il nous dit que grâce à l'Union européenne, il n'y a pas eu de guerre. Donc, vous voyez, c'est vrai que 12 à 4, le ratio est impressionnant. Mais on peut quand même essayer aussi, je dirais, de raisonner sur... Je dirais pas des institutions, parce que les institutions en Grèce, il n'y en avait guère. Donc effectivement, il n'y en avait pas. Mais il y a d'autres exemples, comme qu'il donne aussi sur le traité de Tordesillas, par exemple, de la fin du XVe siècle, qui évite une guerre entre l'Espagne et le Portugal.
Qui, sous l'autorité du pape,
dessine une frontière entre l'Amérique hispanophone et l'Amérique lusophone.
Revenons-en, si vous voulez bien, Patrice Brun, à la manière dont Thucydide raconte cette histoire. Aujourd'hui, certains découvrent ou affirment qu'il s'agirait d'une histoire partisane. Peut-être le sont-elles toutes. Un récit qui est tout à la gloire de Périclès. Nous avons à disposition une très belle biographie de Périclès par Vincent Azoulay, La démocratie athénienne à l'épreuve du grand homme. Ce grand homme, c'est Périclès. Et le récit que nous a légué Thucydide, c'est d'abord un hommage à Périclès.
Indiscutablement. On peut dire qu'il a sculpté la statue du commandeur. Nous ne connaissons guère Périclès que par Thucydide et par ceux qui ont écrit à partir de Thucydide. Je pense notamment à la biographie qu'a écrite Plutarque, bien des siècles après. On va pas dire qu'il n'est pas question de dire que Périclès était un mauvais homme d'État. Ça n'aurait aucun sens et ça n'expliquerait pas comment il a pu être élu stratège 15 années de suite. Ce qui, chez un peuple démocratique aussi sourcilleux que les Athéniens, est quand même un exploit.
Et plein de tourbillons, de passions.
Beaucoup de passions.
Constamment disposé à renvoyer les chefs.
C'est un des problèmes de la démocratie directe.
Vous l'avez observé?
Oui. Cette définition, je dirais, de l'homme d'État idéal a amené Thucydide à noircir le tableau de tous ceux qui lui ont succédé. Je pense notamment à Cléon, qui succède immédiatement à Périclès.
Ça, c'est l'homme du peuple contre le patricien.
Voilà, c'est ça. Et il est indiscutable que les origines sociales de Cléon, alors qui ne sont certainement pas aussi basses que parfois on l'imagine. Il est riche, on dit souvent, quand on lit Aristophane, qu'il sent le cuir, c'est-à-dire que bon, il est tanneur, en réalité il n'est absolument pas tanneur, mais il possède une ou plusieurs tanneries dans lesquelles il fait travailler nombre d'esclaves. Mais effectivement, il n'obéit plus exactement à la norme des stratèges de ceux qui étaient influents à l'Assemblée, qui étaient des aristocrates. Périclès n'est pas le dernier, puisque après il y a quand même son neveu, Alcibiade, mais Cléon, puis un autre qui s'appelle Hyperbolos, qui lui fabrique, dit-on, des lyres, sont des personnages tout à fait nouveaux. Et on voit à quel point Il les méprise. Thucydide méprise ces personnages.
On passe en somme de Franklin Roosevelt, Côte-Est, la Patricia, jusqu'à Donald Trump. Là, je vous amuse.
Oui, si on veut pousser à l'extrême, oui. Mais le seul problème, c'est que effectivement, Thucydide malmène Cléon et Hyperbolos, par exemple. D'Hyperbolos, il dit que il a été ostracisé. Hein. Il dit qu'il a été ostracisé, non pas parce que c'était un homme important, mais parce qu'il était méchant. Enfin, je veux dire, vous voyez, ce sont pas des analyses qui font honneur quand même à Thucydide, puisque ça ne va pas très très loin quand même. Donc, vous voyez, il est indiscutable qu'en créant un homme d'État idéal, tous ceux qui lui ont succédé ne pouvaient être qu'inférieurs. Et je dirais, c'est le problème d'ailleurs du grand homme, de ceux qui succèdent au grand homme, et on voit à quel point... Par exemple, si on veut faire de la politique française, à quel point les hommes de droite qui ont succédé au général de Gaulle ont eu de la peine à avoir une forme de légitimité, ou comme les hommes de gauche qui ont succédé à Mitterrand ont des difficultés, je dirais, à paraître aussi grand que Mitterrand ne le fut.
Je vous laisse la responsabilité de cette analyse, Patrice Brun, tout en disant que, pour ma part, je ne rangerai pas le général de Gaulle à droite, mais ce n'est pas le sujet de notre émission. Alors, venons-en maintenant à la guerre elle-même. Écoutez cet extrait, donc, de l'histoire de la guerre du Péloponnèse, qui évoque le désastre final des Athéniens au cœur de cette expédition de Sicile dont vous parliez il y a un instant. C'est encore un extrait de l'émission Panorama du 14 novembre 1990.
France Culture, Concordance des temps, Jean-Noël Jeannet.
Le jour venu, Nicias emmène l'armée. Mais les Syracusains et leurs alliés la harcèlent toujours de la même façon, en tirant sur elle et en la criblant de javelots de tous les côtés. Les Athéniens cherchaient à gagner en hâte le fleuve Assinaros. Forcés par l'assaut que menait de tous les côtés une cavalerie nombreuse et les autres forces ennemies, ils s'imaginaient que la traversée du fleuve leur serait de quelque allégement, et poussés en même temps par la détresse et le besoin de boire. Mais quand ils l'ont une fois atteint, ils s'y précipitent, sans plus garder aucun ordre. Leur impatience à vouloir tous passer, chacun le premier, la pression de l'ennemi s'y joignant, rendait la traversée dès ce moment difficile. Obligés de n'avancer que par masse, ils tombaient les uns sur les autres et se foulaient aux pieds, ou encore, s'abattant sur leurs javelines et tout leur armement, tantôt ils se tuaient sur le coup, tantôt ils s'empêtraient et étaient emportés par le courant. Postés d'autre part sur la rive opposée, l'endroit était escarpé. Les Syracusains tiraient d'en haut sur les Athéniens qui, la plupart, buvaient avidement et qui se gênaient mutuellement dans le lit encaissé du fleuve. Enfin, descendus derrière eux, les Péloponnésiens égorgeaient plus particulièrement ceux qui s'y trouvaient. L'eau, tout de suite, était devenue trouble. Mais quelque mêlée qu'elle fût de boue et de sang, quand même, on la buvait. Et le plus souvent, il fallait se battre pour en avoir. Une fois rassemblés, les Syracusains et leurs alliés, ramassant les prisonniers en aussi grand nombre que possible, ainsi que le butin, rentrèrent dans la ville. Athéniens et alliés, tous ceux qu'ils avaient pris, ils les jetèrent au fond des carrières, nul lieu de détention ne leur paraissant plus sûr. Seuls, Nicias et Démosthène furent mis à mort. Quand Athènes fut informée, elle resta longtemps incrédule, fût-ce devant les soldats authentiques qui, rescapés de l'action même, apportaient des informations certaines. Les Athéniens ne pouvaient croire à une destruction si complète de toutes leurs forces.
Rappelons, Patrice Brun, que ce Démosthène n'est qu'un homonyme du grand Démosthène, adversaire du roi de Macédoine, auquel vous avez consacré une précieuse biographie. On est sensible à la brutalité de cette guerre extrême.
Ce passage est probablement, je dirais pas l'un des plus pathétiques, mais l'un de ceux qui illustre le mieux un sous-titre que souvent on donne à la guerre du Péloponnèse, la tragédie d'Athènes. Et c'est vrai que on voit que tout saute. C'est-à-dire qu'il n'y a l'armée n'obéit plus à rien, elle n'obéit plus au chef. Les hommes n'obéissent qu'à un sentiment de « sauve qui peut », dirait-on. avec cette image des hommes qui boivent une eau mêlée de boue et de sang, je dirais, on est là, je dirais, dans des images très fortes et qui illustrent aussi le drame que fut l'expédition de Sicile, qui a souvent d'ailleurs été comparé dans l'histoire avec la campagne de Russie de Napoléon, qui a vu d'une certaine manière la fin de la grande époque des guerres napoléoniennes pour arriver à sa chute. Et c'est un petit peu ce qui est arrivé aussi à Athènes après l'expédition de Sicile.
On imagine ce que Victor Hugo aurait pu faire de cette bataille de Sicile, comme il l'a traité dans l'expiation, la bataille de Russie. On observe que plusieurs des historiens américains qui se sont intéressés à Thucydide pour le rapprocher d'aujourd'hui ont fait la guerre du Vietnam. Il y en a un en particulier qui s'appelle Trittle, qui est intéressant et qui a fait une comparaison, réfléchissant aux relations entre la force et le droit en temps de guerre, qui a fait un rapprochement entre Milos et Milaï. Vous savez, Milaï, ce village qui avait été massacré, enfants, femmes et enfants, par des soldats américains qui ont causé un grand scandale aux États-Unis. Expliquez-nous pourquoi on peut faire ce rapprochement.
Ah oui, il y a d'abord indiscutablement de la part de Trittle qui avait fait la guerre du Vietnam mais qui n'avait pas participé au massacre. Il faut quand même le dire. C'est important. Donc c'est pas un témoin qui le rapporte. Hein.
Ce n'est pas ce que j'entendais.
Il y a d'abord une forme de quasi-homophonie du nom. Mélos, qui se dit en réalité Milos, hein, Milaï. Il y a cette homophonie. Et puis, il y a aussi, je dirais, cette différence énorme qu'il y a entre des hommes, une compagnie qui arrive armée, puissamment armée, et des gens désarmés. Et non seulement des gens désarmés, mais presque uniquement des femmes, des enfants et des vieillards. Et les Américains, la compagnie américaine, voyant que les hommes n'étaient pas là, s'est persuadé qu'ils rôdaient autour pour les attaquer, et se sont livrés à une véritable orgie de sang. Et Trittle, qui a une formation d'héléniste, a fait le rapprochement avec la prise de Mélos, cette île que nous appelons Milo maintenant. Eh bien, en 416, où les Athéniens assiègent cette petite île, cette petite cité, et après un échange d'ambassadeurs tout à fait étonnant que nous a d'ailleurs qu'a retranscrit Thucydide, sinon réinventé, cette force athénienne finit par s'emparer de la ville, massacre tous les hommes en âge de porter les armes, et réduit en esclavage les femmes et les enfants. On a là, je dirais peut-être le comble de ce que la guerre peut avoir, peut montrer, où des innocents, disons-le tout net, des innocents sont passés, enfin deviennent des victimes de ce. Alors ce que ça a beaucoup choqué hein, les Grecs à ce moment-là. Après, d'ailleurs, en 404, lorsque les Athéniens sont pris, Xénophon nous dit qu'ils craignent d'avoir le même sort qu'ils avaient réservé aux Méliens.
Mais de fait, le texte de Thucydide est tout à fait parlant, puisqu'alors que les Méliens espèrent en la justice divine, en disant « nous avons confiance que la divinité ne nous laissera pas écraser par la fortune », les Athéniens répondent, avec une sorte de cynisme absolu, « les dieux, d'après notre opinion, et les hommes, d'après notre connaissance des réalités, tendent, selon une nécessité de leur nature, à la domination partout où leur force prévale. Ce n'est pas nous qui avons établi cette loi, et nous ne sommes pas non plus les premiers à l'appliquer. Elle était en pratique avant nous, elle subsistera à jamais après nous. » Fin de citation.
Et on pourrait même rajouter qu'ils disent à la fin, « si vous étiez à notre place, vous feriez exactement comme nous. » Et là, il y a, je dirais, effectivement un cynisme absolu. D'autant plus que les Athéniens, à un autre moment, disent que on peut parler de droit dès lors qu'il y a équilibre des forces. Mais à partir du moment où il y a déséquilibre des forces, c'est la force qui prime. Alors on est vraiment dans des situations qui, évidemment, ressemblent beaucoup à la guerre du Vietnam, mais également à la guerre d'Irak. Que, par exemple, un autre historien américain, Sammons, Lovin Sammons, a développé, puisqu'il parle, lui, de la prison d'Abu Ghraib. On voit à quel point Thucydide, comme vous l'avez dit au début, a un écho auprès des Américains, sans doute parce que ils ont connu chez eux enfin pas exactement chez eux, mais ils ont porté la guerre en dehors de leur territoire. Ce que nous ne faisons plus guère, ou que ce sont des simples, je dirais, des opérations qui n'ont pas l'importance, par exemple, qu'a été l'invasion de l'Irak ou celle du Koweït, ça n'a rien à voir. Mais on voit à quel point ils sont nourris pour leur compréhension de Thucydide d'un présent qui est extrêmement brûlant.
Il y a un autre épisode dont traite Thucydide et qui est important, c'est le débat autour de Mytilène.
Alors le débat autour de Mytilène, alors c'est 429. Mytilène est une cité alliée d'Athènes, amie presque d'Athènes. Les Athéniens le considèrent quasiment comme une égale. Et les Mytiléniens commencent d'ailleurs à regimber un peu parce que les Athéniens commencent à être un peu envahissants, on peut dire. L'impérialisme athénien touche aussi les alliés les plus proches et les Mytiléniens se détachent de l'alliance athénienne. Les Athéniens ont une réponse extrêmement brutale, ils s'emparent de la cité et le débat à l'Assemblée du peuple est de savoir quel sort leur réserver. Et là, il y a deux voix qui se font entendre.
Oui, Cléon et Diodote.
C'est ça, Cléon et Diodote. Cléon étant celui qui représente l'impérialisme athénien le plus brutal, qui dit, mais c'était des amis, ils se sont révoltés, il faut faire un exemple, nous allons donc tous les tuer. Et Diodote dit, on ne sait pas qui est ce Diodote d'ailleurs, on peut se demander, est-ce qu'il a vraiment existé? Mais enfin, bref, Thucydide nous donne son nom, et il dit, non, il ne faut pas faire ça, il faut punir le petit nombre de responsables. Mais par contre, il ne faut pas donner de notre cité l'image d'une cité qui punit sans discernement. Et là, on est au cœur, d'une certaine manière aussi, de qu'est-ce que, finalement, l'impérialisme? Est-ce que l'impérialisme, il doit y avoir un impérialisme soft, si je puis m'exprimer ainsi, comme le dit Diodote, ou un impérialisme dur, comme le propose Cléon?
En l'occurrence, c'est Diodote qui est...
En l'occurrence, c'est Diodote qui est suivi, mais quelques années après... Une dizaine d'années après, avec l'affaire de Mélos, on voit que finalement c'est la revanche posthume de Cléon.
Peut-être est-ce le lieu, Patrice Brun, d'évoquer un autre historien américain contemporain dont on peut dire qu'il ne se situe pas à l'extrême du parti du progrès. Mais c'est vraiment quelqu'un de très conservateur et même, on peut dire, réactionnaire. Victor Davis Hanson, dont les ouvrages ont été publiés en français, en particulier La guerre du Péloponnèse, et qui lui aussi s'efforce, mais sous un autre éclairage, de faire un rapprochement.
Dans ses travaux historiques, mais surtout, je dirais, dans ses conférences, où il utilise beaucoup de références à l'histoire ancienne. C'est un très bon historien, il n'y a aucun problème. Simplement, sa vision est quand même très largement obérée par les préoccupations du moment.
Il a un blog, d'ailleurs, où il développe ses points de vue.
Tout à fait intéressant. Il poste ses conférences qui sont vraiment très, très... il défend Trump, absolument. Non seulement il défend Trump, mais il a défendu la guerre d'Irak. Donc, il a défendu Bush. C'est vraiment America First.
Mais en quoi utilise-t-il Thucydide au service de ses thèses?
Alors, il utilise dans le sens où, pour lui, Thucydide décrit ce qu'il a appelé le modèle occidental de la guerre. C'est-à-dire un modèle qui serait d'une certaine manière sans solution de continuité aucune, je dirais du monde grec jusqu'à nous. Avec une vision où on met à l'écart les civils, avec une armée régulièrement constituée, une armée qui obéit, qui à la fois disciplinée, et des chefs qui sont également, je dirais, de haut niveau. Donc il y a une vision qui est évidemment tout à fait idéologique, d'ailleurs.
Où met-il les guérillas? Où met-il les...
Ah ben voilà, c'est un des problèmes. C'est-à-dire qu'effectivement, la guérilla espagnole, par exemple, je vois pas en quoi elle ne serait pas occidentale. D'ailleurs, Stéphane Audouin Rousseau a largement critiqué la position de Hanson et l'a définie comme d'abord idéologique.
Dans un beau livre qui s'appelle Combattre, un livre assez récent, de Stéphane Audouin Rousseau, oui.
Hanson veut absolument montrer que Thucydide n'est guère utilisable à la limite que pour le modèle occidental, et nous est utile dans le sens où il définit un modèle occidental. Et là, effectivement, je dirais que je pense qu'il va vraiment très très loin dans l'affaire, et je partage tout à fait les critiques de Stéphane Audouin Rousseau sur la manière dont Hanson voit la guerre.
Alors venons-en, si vous voulez bien, au dernier moment de notre conversation, Patrice Brun, cette conversation consacrée à l'actualité de Thucydide. Venons-en à ce problème que vous avez effleuré tout à l'heure, c'est celui des relations entre impérialisme et démocratie. pour ouvrir ce propos final, écoutons donc un dernier extrait, si vous le voulez bien, de l'histoire de la guerre du Péloponnèse, toujours lu par Gérard-Henri Durand, en novembre 1990. C'est un discours de Périclès.
Comprenez que cette cité jouit dans le monde entier du renom le plus haut. Cela parce qu'elle ne se laisse pas dominer par les malheurs et qu'elle sait dépenser à la guerre plus que toute, en hommes et en efforts. Elle a ainsi acquis la puissance la plus considérable à ce jour et pour les générations à venir, même si à présent il nous arrive jamais de fléchir, car tout comporte aussi un déclin. Le souvenir en sera préservé éternellement. Il dira qu'aucun peuple grec n'a exercé en Grèce un aussi grand empire, que nous avons fait face dans les guerres les plus importantes à des adversaires aussi bien unis qu'isolés, et que nous avons habité une ville qui fut la mieux pourvue de toutes et la plus grande. Or, ces titres peuvent inspirer des critiques aux partisans de la tranquillité, mais celui qui veut lui aussi agir les enviera, et celui qui ne les possède point les jalousera. Être détesté et odieux sur le moment a toujours été le lot de ceux qui ont prétendu à l'empire. Mais si l'on s'attire les mécontentements jaloux pour un objet qui soit considérable, on se montre bien avisé. Car la haine ne tient pas longtemps, mais l'éclat dans le présent avec la gloire pour l'avenir reste à jamais dans les mémoires. Pour vous, sachez prévoir un avenir noble, en même temps qu'un présent sans honte, et qu'un zèle immédiat vous conduise à ce double but. Auprès de Sparte, n'envoyez pas de héros. Et ne faites point paraître que les épreuves présentes vous accablent. Car ceux qui, en face du malheur, montrent dans leurs sentiments le moins d'affliction et dans leur conduite le plus de résistance, ceux-là, qu'il s'agisse d'État ou de particuliers, sont bien ceux qui l'emportent.
Alors la haine, la gloire, la mémoire, comment l'emporter ?
Eh bien c'est un petit peu tout ça. C'est-à-dire que il faut situer ce passage au moment où Périclès prend la parole devant l'Assemblée du peuple et veut convaincre ses concitoyens de ne pas céder à l'ultimatum spartiate. C'est-à-dire de dire clairement, oui, nous allons aller à la guerre. Et les explications, les arguments qu'il donne sont tout à fait intéressants. Il dit que il faut se donner les moyens de sa puissance. Se moquer complètement de susciter la haine qui, le dit, ne tient pas. Ce en quoi il s'est peut-être un petit peu trompé. Mais la haine des autres, de l'ennemi, est de peu d'importance. Il y a aussi, vous l'aurez noté, cette recherche de la gloire. Ce que les Grecs appelaient le kleos, qu'on retrouve déjà chez Homère, et qui est une manière d'exister pour les Grecs. Il est tout à fait intéressant que le kleos, à l'époque d'Homère, est un kleos personnel, individuel. Et là, avec Périclès, il étend le kleos à l'ensemble de la cité. C'est-à-dire que la gloire d'Athènes, c'est de refuser l'ultimatum et d'aller à la guerre. Et c'est là où, effectivement, on se dit, il y a quand même quelque chose, peut-être de paradoxal, entre ce grand homme d'État, qui fut Périclès indiscutablement, et puis le fait qu'il ait, d'une certaine manière aussi, amené la cité à la guerre. Évidemment, Thucydide nous dit que ses successeurs n'ont pas suivi ses conseils.
Car il est mort peu de temps après, emporté par la peste.
D'une certaine manière, vous voyez, c'est le lot d'un certain nombre de grands hommes qui ont, si je puis dire, la chance de mourir au début d'une guerre. Regardons par exemple Kennedy. Qui porte le poids de la guerre du Vietnam ?
Johnson.
C'est Johnson. Et pourtant, qui a envoyé les premiers soldats au Vietnam ? C'est Kennedy, mais c'est complètement oublié. Donc vous voyez, il y a là, je dirais, dans ce propos de Périclès, quelque chose qui indique à quel point une démocratie peut être belliqueuse. La démocratie, c'est ça. Ce n'est pas de la faiblesse, nous dit-il. La démocratie, c'est d'abord montrer sa puissance pour avoir la gloire. Et c'est vrai que, d'une certaine manière, c'est lui qui, vous le voyez, dans ce qu'il dit, est en train de parler de l'apogée d'Athènes. Il dit à un moment, peut-être que plus tard, on ne sera pas aussi puissant, mais le souvenir de cette gloire-là restera. Et on peut se demander, c'est d'ailleurs l'expression « siècle de Périclès » ne naît pas dans ces propos que Thucydide rapporte.
Peut-être le XXe siècle apparaîtra-t-il comme le siècle des États-Unis.
Et le XXIe, celui de la Chine?
On verra. Il parle de la gloire, c'est l'aspect mouvement des idées, les représentations. Il y a aussi des intérêts matériels que nous connaissons
bien entendu,
également.
C'est la richesse.
Nous n'avons pas évoqué encore, mais l'aspect commercial à l'origine de cette guerre a compté.
Alors, commercial à tous les sens, bien entendu. Ce qui jouait beaucoup, c'est que les Athéniens avaient interdit tout commerce maritime aux cités qui ne faisaient pas partie de la Ligue de Délos. Donc Mégare et Corinthe, dont j'ai parlé tout à l'heure.
Privilège colonial.
Privilège de nature coloniale, bien évidemment.
Nous avons connu ça.
Ajoutons aussi que les Athéniens percevaient un tribut très élevé de la part de leurs alliés, et c'est le tribut qui explique la floraison de monuments que l'on trouve sur l'Acropole. D'une certaine manière, cette grande gloire d'Athènes, elle s'est faite, et clairement Périclès le dit aussi, elle se fait sur les annexions, sur l'exploitation des alliés. Effectivement, c'est là où on voit le lien direct entre la démocratie et l'impérialisme.
Ceux qu'on appelle les alliés préfèrent envoyer de l'argent plutôt que des troupes.
Exactement, parce que c'est plus commode pour eux. Et en plus, cet argent permet de financer la démocratie. Puisque toutes les magistratures athéniennes sont, sauf la stratégie, sont rémunérées. Et cela permet, effectivement, d'encourager la démocratie. Sans impérialisme, il n'y a pas de démocratie. Et quelque part, c'est vrai, ça nous fait un peu peur.
Encore un auteur américain, Simmons, qui a publié un livre qui s'appelle « Ce qui ne va pas avec la démocratie »,« What's wrong with democracy » en 2007, qui s'appuie lui aussi sur Thucydide.
Eh oui, alors il faut dire qu'il est plus jeune de 20 ans. Il n'a pas fait la guerre du Vietnam, et du Vietnam il ne connaît que Platoon ou Rambo. Hein. Mais par contre, il est contemporain de la guerre d'Irak. Et il nous dit que aux États-Unis, la démocratie est conçue comme une sorte d'icône. Mais que par contre, ce qu'il y a derrière cette icône, eh bien, c'est par exemple la prison d'Abu Ghraib. Et là, effectivement, c'est-à-dire qu'il a force, quand même, il faut reconnaître, d'un certain nombre d'intellectuels américains, c'est de se remettre en question. De remettre en question, je dirais, le fonctionnement de leur pays. Et What's Wrong with Democracy a été vraiment un coup de canon dans la géopolitique américaine, puisque de l'intérieur, il y a eu, alors qu'on sait très bien que la guerre d'Irak a été, je dirais, créée d'une certaine manière par toute une série de ce qu'on n'appelait pas encore les fake news.
Des mensonges délibérés, assumés.
Des mensonges d'État. Hein. Mmh. On voit à quel point aussi, c'est les intellectuels qui, dans un premier temps, ont été emportés par la vague, ont réussi à s'en extirper ensuite et montrer à quel point, je dirais, la notion de démocratie n'a pas le sens positif qu'on peut lui donner. Parce qu'il dit à un moment, il dit qu'une bombe lancée par l'avion d'un pays démocratique fait autant de morts que qu'une bombe lancée par un avion d'un pays oligarchique ou tyrannique.
Et il dénonce, il fustige la prétention des Américains à apporter la démocratie en Irak.
Voilà, et on peut pas lui donner tort, c'est le moins que l'on puisse dire.
Les Athéniens ne prétendaient pas à cela, ils n'avaient pas ce genre d'hypocrisie.
Alors par moments, s'ils disent qu'ils veulent mettre, des démocraties, mais ils attaquent Syracuse, qui est une démocratie. Donc effectivement, c'est une idéologie à géométrie variable.
Il n'y a pas que notre contemporain, d'ailleurs, qui a utilisé Thucydide pour des réflexions historiques. Je pense à Nietzsche en particulier.
Alors, Nietzsche est tout à fait intéressant, parce qu'effectivement, il a placé Thucydide très très haut dans son panthéon grec. Autant il méprise Platon, autant il a une vision de Thucydide qui est absolument extraordinaire. Alors, dans deux ouvrages, hein, dans Aurore et dans Le Crépuscule des Idoles. Ça, c'est tout à fait intéressant, parce que dans Le Crépuscule des Idoles, il dit à un moment qu'il est impératif de lire à la fois Thucydide, la guerre du Péloponnèse de Thucydide, et Le Prince de Machiavel.
Le profil ne sera pas seulement intellectuel, il sera également civique?
Il serait civique, absolument. Alors, pour lui, sans doute, est-ce philosophique, mais, de fait, la grande question que l'on peut poser, et d'ailleurs que Pierre Vidal-Naquet posait dans une introduction à une édition de Thucydide, traduite par Roussel, il disait à un moment, les politiques d'aujourd'hui devraient-ils lire Thucydide? Effectivement, je pense qu'il y aurait profit à lire, comme d'ailleurs il y a toujours profit, à lire Le Prince de Machiavel. Mais l'intérêt de Nietzsche, c'est qu'il a été le premier à faire le lien entre les deux. Entre finalement, ce qu'on ne voit pas trop souvent dans l'œuvre de Thucydide, mais c'est aussi un traité de politique. Un traité de politique qui parle de diplomatie, certes, de guerre, qui parle de guerre civile, mais qui parle aussi finalement de la vie des cités, de la vie d'un gouvernement, de la manière dont il évolue et l'utilisation qu'il fait de la guerre ou de la diplomatie, un petit peu comme Clausewitz pouvait faire, a pu faire au XIXe siècle.
Quel morceau donc du livre proposeriez-vous à nos dirigeants d'aujourd'hui ?
Une partie du livre 3 sur la guerre civile à Corcyre. Les Athéniens sont là, tout près de la ville. Corcyre, c'est Corfou actuel, hein, donc c'est une île. Et à ce moment-là, il y a une guerre civile qui éclate. Une guerre civile qui est absolument terrible. Où Thucydide dit à quel point une cité qui paraissait unie se déchire, mais avec des massacres terribles. Et un sociologue actuel pourrait dire que la cité de Corcyre, à ce moment-là, ne sait plus faire société. C'est peut-être, je crois, le morceau qui, d'un point de vue de l'utilisation contemporaine, me paraîtrait le plus utile à lire et à relire.
J'ai le goût, pour finir, de citer un autre auteur qui, lui, a donné des conseils aux hommes publics des années 1920, après la guerre, c'est Thibaudel, dont la campagne avec Thucydide, c'est le nom d'un de ses livres, et d'ailleurs en tête de l'édition de l'Histoire de la guerre du Péloponnèse, traduite par Jacqueline de Romilly dans la collection Bouquins. Il montre bien qu'à lire Thucydide, on peut se situer à la rencontre de deux voies possibles, c'est-à-dire l'affirmation que le nationalisme, décidément, l'emporteront de toute façon, ou bien que la sagesse que peut nous apprendre l'histoire peut amener à la construction de l'Europe.
Bien entendu. Et la vision tellement pessimiste que finalement qui ressort de l'œuvre de Thucydide devrait ou doit, ou pourrait, je ne sais pas le terme qu'il faudrait choisir, mais pourrait inciter vraiment à la réflexion avant l'action. Tout à fait évident. Bien entendu, on ne dira pas comme Thucydide que les choses se répètent indéfiniment.
Sinon, c'est désespérant si tout est cyclique.
L'histoire n'est pas cyclique. Bien entendu, chaque période a son contexte propre.
Eh bien, nous allons laisser nos auditrices et nos auditeurs rêver à tout cela, en compagnie de Thucydide. Patrice Brun, merci beaucoup. Parmi votre bibliographie, j'y lirai votre très belle biographie de Démosthène. Nous avions fait d'ailleurs une émission ici, naguère, sur Démosthène. Avec vous, Démosthène, rhétorique, pouvoir et corruption à Athènes. C'est un ouvrage qui est paru chez Armand Collin il y a 4 ans. Jacqueline de Romilly a donc traduit l'histoire de la guerre du Péloponnèse, je le disais, la collection Bouquins. Et parmi son œuvre innombrable, je choisirais de citer la biographie d'Alcibiade, qui est encore un contemporain de cette guerre et dont l'histoire est intéressante. Alcibiade, aux éditions de Fallois, en 1995. J'ai cité également le beau livre de Vincent Azoulay sur Périclès, Armand Collin 2010, et puis le livre de Allison qui vient de sortir, donc L'Amérique et la Chine dans le piège de Thucydide, avec tout de même un point d'interrogation qu'Odile Jacob, ces jours-ci, publie. Mes chers auditeurs, mes chères auditrices, vous pourrez retrouver une bibliographie plus complète sur notre site, et le sujet est immense, Thucydide et nous, ainsi que les références des documents sonores que nous avons utilisés, et vous pourrez également écouter, réécouter et podcaster cette émission. Samedi prochain, nous irons vers le Brésil inquiétant de Bolsonaro. Je ne sais pas si Bolsonaro a beaucoup lu Thucydide. Brésil, une dictature, comparaison avec l'époque sombre de 1964 à 1985. Y a-t-il résurgence de cette dictature? C'est ce que nous considérons avec Anaïs Fléchet, qui connaît fort bien ce pays, dans la durée. Lundi prochain, vous retrouverez à 9h la Fabrique de l'Histoire d'Emmanuel Laurentin, qui consacrera sa semaine au thème suivant, une histoire de la folie. Ce sera une série thématique en 4 volets. J'imagine que Michel Foucault n'en sera pas absent. C'était Concordance des temps, une émission de Jean-Noël Jeannet, préparée par Jeanne Guéroux, réalisée par Yaël Mandelbaum, avec à la prise de son Élise Leu, avec Nathalie Rouvillain à la discothèque et Anne Delaveau pour les archives de l'Institut National de l'Audiovisuel. Et maintenant, vous avez rendez-vous avec Christine Ockrent pour Affaires étrangères.